Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. 12 indépendantistes catalans face à la justice espagnole. Le procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Madrid divise l'Espagne. Le reportage de Marie-Hélène Ballestero dans un instant. Theresa May réclame du temps pour modifier l'accord sur le Brexit négocié avec Bruxelles. La première ministre britannique a de plus en plus de mal à convaincre son Parlement. Antoine Gignot nous appellera de Londres. Forte hausse des actes antisémites en France l'an dernier, plus 74%. Cette montée de l'antisémitisme, on la constate aussi dans d'autres pays européens. Nous ferons le point avec Audrey Tison. Le Sénat adopte la loi Pacte qui doit relancer l'économie française, mais les sénateurs ont supprimé les articles qui prévoyaient les privatisations d'ADP Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Le décryptage de Stéphane Robert. Les constructeurs aéronautiques cherchent à produire des avions moins polluants. Comment ? C'est le dossier de ce journal proposé par Hakim Kasmi. C'est un procès historique qui s'est ouvert ce matin devant le tribunal suprême espagnol à Madrid. 12 dirigeants indépendantistes catalans sont jugés notamment pour sédition, en l'occurrence pour avoir organisé un référendum d'autodétermination en Catalogne en octobre 2017. Un grand absent à ce procès, Carles Puigdemont, le leader séparatiste aujourd'hui exilé en Belgique. 16 mois après cette tentative avortée de sécession, la question catalane divise plus que jamais l'Espagne. La droite et surtout l'extrême droite espagnole le vent en poupe dans les sondages. Elles sont en première ligne pour défendre l'unité du pays. Cette division de l'Espagne, Marie-Hélène Ballestero l'a constatée à l'ouverture du procès.
C'est dans un climat de tension qu'a démarré le procès. Il faut dire que la crispation et la radicalisation sont de plus en plus présentes dans le débat politique espagnol. Les partis de l'opposition ont adopté un ton de plus en plus agressif à l'égard du gouvernement Sanchez, qu'ils accusent de céder au chantage des indépendantistes. Carlota en est convaincue. Militante catalane du parti d'extrême droite Vox, elle en veut au gouvernement central, mais surtout aux indépendantistes.
Nous ne voulons pas que la Catalogne se sépare de l'Espagne. Ils ne respectent pas les lois espagnoles, la Constitution, les lois internationales. Les Catalans, nous sommes menacés, insultés, écrasés. On se sent humiliés. Il y a des affrontements au sein des familles, les amis se séparent. On assiste à une profonde fracture sociale.
C'est une fracture sociale totale.
Du côté des indépendantistes, on campe également sur ses positions. Olivier Peter, l'un des avocats de Jordi Cuixart, l'ancien leader de l'entité souverainiste Òmnium Cultural, reste ferme et confiant.
On a toujours de l'espoir. On a de l'espoir parce qu'on a raison du point de vue du droit espagnol et du point de vue du droit international. Donc c'est surtout le tribunal qui a un choix. Il peut choisir si respecter le droit international et donc acquitter rapidement Jordi Cuixart ou bien rendre une décision qui serait peut-être politiquement opportune pour les intérêts du gouvernement aujourd'hui, mais certainement contraire au droit international. Donc s'il y a une condamnation, on ira à Strasbourg et on a un grand espoir que Strasbourg mettra fin à cet arbitraire.
Le procès le plus attendu arrive en pleine tourmente politique et sociale. Un climat qui ne devrait pas s'apaiser dans les prochains mois.
Marie-Hélène Ballestero, correspondante à Madrid. Autre pays divisé en Europe, le Royaume-Uni. Là, c'est la question du Brexit qui déchire les Britanniques. Le pays doit normalement quitter l'Union européenne le 29 mars prochain. Mais pour l'instant, la majorité des parlementaires rejette l'accord de sortie conclu par Theresa May avec Bruxelles. La première ministre britannique qui était devant le Parlement cet après-midi pour faire le point sur ses dernières discussions avec les responsables européens. Et elle a surtout demandé plus de temps pour poursuivre les tractations. Antoine Gignot.
Elle devait apporter des solutions. À la place, elle réclame du temps. Theresa May, face aux parlementaires, reconnaît qu'elle n'a obtenu aucune concession de la part des chefs d'État de l'Union européenne. Mais, dit-elle, la négociation continue avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission.
Nous sommes tous les demi d'accord. Nos équipes vont continuer à discuter et nous nous rencontrerons de nouveau avant la fin du mois de février pour prendre acte de l'avancée de ces négociations. En somme, le travail continue et je crois que nous pouvons arriver à un accord qui soit accepté par le Parlement.
Pourtant, Theresa May ne donne aucune date butoir, aucune précision sur le calendrier. Le chef du groupe des indépendantistes écossais lui reproche publiquement de mentir. Jeremy Corbyn, le chef de file de l'opposition, l'accuse de chercher à gagner du temps.
On nous avait promis un accord pour le mois d'octobre dernier, il n'a pas eu lieu. On nous avait promis un vote sur l'accord de sortie en décembre, il n'a pas eu lieu. En réalité, la première ministre n'a qu'une seule tactique, elle cherche à jouer la montre pour, au final, faire du chantage aux parlementaires et leur faire accepter un accord profondément imparfait.
Et c'est le même discours chez les représentants de la finance. La City of London réclame des avancées. Les entreprises ne peuvent pas se permettre de conclure un accord à la dernière minute, explique son porte-parole. Un Brexit sans accord et sans période de transition, explique le gouverneur de la Banque d'Angleterre, serait une catastrophe économique.
Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Le projet de TGV Lyon-Turin n'est pas rentable. C'est l'implacable conclusion d'un rapport d'experts commandé par le ministère italien des Transports. Un projet de ligne à grande vitesse défendu par la France et une partie du gouvernement populiste italien, la Ligue de Matteo Salvini en l'occurrence, alors que le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio ne veut pas en entendre parler. Olivier Tosseri, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Rome, Olivier, pour les experts italiens, la ligne Lyon-Turin présente, je cite, une rentabilité très négative.
Oui, des experts tous connus pour leur scepticisme, voire leur opposition au projet. Un trou inutile dans une montagne, c'est comme ça qu'avait défini le ministre des Transports italien qui leur a commandé ce rapport de 80 pages. Un rapport qui dénonce un gigantesque gaspillage. Les coûts seraient supérieurs de près de 7 milliards d'euros aux éventuels bénéfices. Afin que cette infrastructure soit rentable, les experts estime que le trafic devrait être multiplié par 25 ces 40 prochaines années. Le nombre de voyageurs devrait ainsi passer à presque 5 millions en 2059 et les marchandises des 2,7 millions de tonnes actuellement à 52 millions de tonnes par an. C'est donc une croissance annuelle des flux de 2,5% qui est jugée impossible. L'État italien, enfin, perdrait quant à lui une cagnotte de presque 5 milliards d'euros avec la baisse des rentrées fiscales liées à la baisse de la consommation de carburant et à celle des recettes liées au péage autoroutier. Ce rapport était censé constituer le point de départ d'un dialogue entre Paris et Rome. Le dialogue doit d'abord s'achever en Italie. Le patronat parle d'un rapport qui est une arnaque. La Ligue veut terminer le chantier au plus vite pour sauver les emplois. Quant au mouvement 5 étoiles, il juge que les Italiens n'ont pas besoin d'envoyer de la mozzarella en France en gagnant 20 minutes, mais d'avoir au plus vite le TGV en Sicile.
Olivier Tosseri, correspondant en Italie en direct de Rome, merci. La montée de l'antisémitisme en France est une réalité statistique. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les actes antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier, 541 au total, dont 81 actions violentes, avec un homicide, le meurtre sauvage de Mireille Knoll en mars dernier à Paris. Audrey Tison, bonsoir.
Bonsoir.
Cette montée de l'antisémitisme, on la constate dans d'autres pays européens. C'est en tout cas ce qui apparaît dans le dernier rapport du ministère israélien de la diaspora. Rapport présenté il y a quelques jours lors de la journée internationale dédiée aux victimes de la Shoah.
13 juifs ont été assassinés dans des attaques antisémites en 2018. C'est le chiffre marquant que met en avant cette étude israélienne du jamais vu depuis les années 90. Une seule de ces victimes habitait en Europe, hein, vous l'avez dit, Mireille Knoll, tuée à Paris en mars dernier. D'après ce rapport, la France est le pays où l'antisémitisme s'est le plus développé en un an. Mais il y a aussi le Royaume-Uni avec 1600 incidents signalés. Ce serait le troisième record d'affilée dans ce pays, d'après une organisation non gouvernementale, dont les chiffres sont supérieurs aux données officielles, certes, mais la hausse est bien visible, quelles que soient les sources. Analyse de Vida Beresnevi-Siuté de l'Agence européenne des droits fondamentaux.
La fréquence des actes antisémites est liée de près aux tensions en Israël et aux conflits entre Israël et les pays arabes. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas autant dans les autres pays européens. Et puis, la perception de la communauté juive britannique est sans doute aussi influencée par les accusations publiques d'antisémitisme qui ont notamment touché le Parti travailliste.
Et les relevés des incidents au Royaume-Uni se rapprochent désormais du triste record européen détenu depuis longtemps par l'Allemagne. Autre indicateur, ce sondage européen dans 12 pays montre une inquiétude grandissante chez les Juifs. Près d'un tiers des sondés disent avoir été harcelés au moins une fois l'an passé, très souvent par Internet ou les réseaux sociaux.
Audrey Tison, merci. Alors, pour lutter dès l'école contre les préjugés antisémites, pour éviter qu'ils ne débouchent sur des passages à l'acte, l'éducation nationale a un rôle majeur à jouer. Écoutez à ce sujet Benjamin Marolle, professeur d'histoire-géographie au collège Lenain de Tilmont à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
Moi, mon rôle d'enseignant d'histoire, c'est de mettre tout en œuvre hein, pour éviter que, évidemment, l'histoire ne bafouille. L'enseignement de l'histoire, hein, c'est selon moi le meilleur vaccin contre la peste brune. Donc, il n'y a aucun souci aussi sur le fait que ma mission est clairement d'éveiller les consciences, d'enseigner une histoire qui est une histoire scientifique, rigoureuse. Voilà, donc je m'y emploie du mieux que je peux. Alors, est-ce que ça va être plus compliqué possiblement, parce que les témoins directs, en fait, de ces drames historiques, nous quittent les uns après les autres. Moi, j'emmène une classe au mois de mai pour rencontrer une ancienne déportée, Yvette Lévy, qui mes élèves vont pouvoir échanger, discuter, donc approfondir sur toutes ces questions. Voilà, c'est la difficulté aussi, si vous voulez, c'est que en ce moment, on est confronté à une baisse assez considérable de nos moyens horaires. Moi, dans mon établissement, on va perdre 12 heures hebdomadaires d'enseignement. Donc moi, je perds des demi-groupes sur un niveau de classe, dans un contexte où, en gros, on investit moins dans l'école. Quand vous avez des effectifs pléthoriques dans une classe, identifier un élève qui pourrait avoir un discours soit conspirationniste, soit antisémite, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous avez une classe en demi-groupe et que vous pouvez aborder les questions justement sensibles liées à la Shoah ou à l'extermination, au génocide juif et tzigane. C'est plus compliqué, en fait, de parler en direct avec des élèves, de comprendre un petit peu ce qu'ils ont dans la tête, éventuellement les erreurs qu'ils peuvent avoir ou commettre. Donc voilà, le lien, il est facile à faire.
Benjamin Amarol, professeur d'histoire, il répondait à Hakim Kasmi. Il y a aujourd'hui en France une hausse sensible des féminicides. Selon un bilan établi par un collectif de bénévoles féministes, depuis le début de l'année, 20 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Déjà 20 féminicides en France en 2019, c'est deux fois plus que l'an dernier à la même date.
Oui, alors est-ce le nombre de femmes victimes qui augmente ou bien leur visibilité? Car l'objectif de la page Facebook « Féminicide par conjoint ou ex » monté en 2016 par une quinzaine de féministes, dont un homme, est de recenser, raconter et surtout nommer ces femmes tuées pour qu'elles cessent d'être invisibles dans la société et auprès des pouvoirs publics. Il s'agit d'aller à l'encontre de l'anonymat des chiffres annuels qui ne disent pas assez l'ampleur du fléau, expliquent ces féministes qui, pour le coup, tiennent à leur anonymat. Alors elles recensent les prénoms, l'âge, les circonstances de la mort de ces femmes et surtout le suivi judiciaire du tueur. Avec des vidéos, elles listent Séverine, 32 ans, défigurée, battue à mort le 3 janvier dernier, Nadia, 43 ans, poignardée 20 fois, le 9 janvier, Agère, 15 ans, poignardée, Georgette, 75 ans, abattue, etc., etc., etc. Nous avons aussi une importante liste de femmes disparues ou de corps de femmes découverts sans avoir toujours la fin de l'enquête, préviennent-elles. Alors les chiffres officiels de 119 femmes tuées en 2018, 133 en 2017 sont sans doute bien en deçà de la réalité. Et c'est d'ailleurs au nom de cette réalité qu'elles fustigent les expressions comme crime passionnel ou double meurtre, car selon ce collectif, si les hommes tuent les femmes, c'est parce qu'elles leur échappent ou qu'elles ne peuvent plus leur servir. Chaque fois, elles interpellent le gouvernement via les réseaux sociaux, notamment, mais sans succès. Car si le président de la République avait promis de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes sa priorité pour son quinquennat, l'enveloppe de 480 millions d'euros débloqués est bien insuffisante, clament ces féministes, qui demandent 1 milliard d'euros, comme en Espagne. Surtout, il faudrait un changement dans les mentalités, notamment chez les magistrats, et au sein des forces de l'ordre. L'étude de ce collectif montre en effet que dans de nombreux cas, les femmes tuées par leurs conjoints avaient tenté de porter plainte, mais leur plainte n'a pas été prise au sérieux par les policiers ou les gendarmes.
Cécile de Kervas-Doué, merci. Dans l'actualité politique, le Sénat a adopté aujourd'hui le projet de loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises. 207 voix pour, 117 contre et 22 abstentions. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Les sénateurs ont tout de même retoqué le texte gouvernemental. Les privatisations d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux ont disparu de la loi.
Oui, les privatisations d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux doivent permettre, selon les explications du gouvernement, de constituer un fonds de 10 milliards d'euros dont les intérêts, une fois placés sur les marchés financiers, seraient susceptibles de financer des politiques innovantes. Mais pour la droite, majoritaire au Sénat, et plus particulièrement pour le groupe Les Républicains, représenté par la sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, c'est une absurdité sur le plan strictement comptable.
La motivation présentée par le gouvernement nous semblait peu convaincante. Les perspectives de croissance de ces deux entreprises laissent présager de solides dividendes.
Et la droite dans cette affaire a reçu l'appui de la gauche, en particulier des socialistes, représentés par le sénateur du Doubs, Martial Bourquin, qui a notamment expliqué qu'il ne fallait pas reproduire l'erreur commise en 2005 avec la privatisation des autoroutes.
Je trouve, moi, qu'il est vraiment très intéressant que la gauche et la droite défendent ensemble l'intérêt national lorsqu'il s'agit de pépites publiques comme ADP et la FDJ. On ne vend pas des bijoux de famille à des intérêts privés. Ces privatisations sont une aberration économique est une erreur politique.
Concernant cette loi Pacte, les sénateurs se sont livrés à un jeu politique assez habile. Ils ont d'une part validé le projet voulu par le gouvernement et d'autre part supprimé cette disposition majeure que sont les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Dès lors, les députés vont devoir les réintroduire et assumer publiquement ces dispositions impopulaires à l'occasion du retour de ce texte devant l'Assemblée d'ici quelques semaines. Ce qui, dans un contexte social loin d'être apaisé, sera peut-être difficile à endosser par un certain nombre de parlementaires de la majorité.
Stéphane Robert, merci. On parlait à l'instant d'ADP, Aéroports de Paris, qui a lancé aujourd'hui une concertation citoyenne pour la construction d'un nouveau terminal passager à Roissy-Charles de Gaulle, le T4 à l'horizon 2037. Un projet qui inquiète les riverains. Et le dossier de la rédaction est justement consacré ce soir aux efforts des constructeurs aéronautiques pour réduire la pollution de leurs avions. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Stanislas Vazak.
Alors pour tenter de comprendre comment les compagnies aériennes et les constructeurs travaillent pour réduire leurs émissions de CO2, vous êtes allé à leur rencontre en effectuant notamment une traversée transatlantique entre New York et Paris.
PNC, préparez-vous pour le décollage.
Pour consommer le moins de carburant au départ de notre vol New York-Paris, où le temps de roulage peut atteindre les 45 minutes, notre Boeing 777 d'Air France se rend sur la piste de décollage en n'utilisant qu'un seul moteur, un gain de kérosène et d'émissions de CO2 non négligeable, comme nous l'explique Éric Prévost, notre commandant de bord.
Sur 1,5 tonne de carburant prévu pour rejoindre notre piste de décollage, en fait, nous n'avons consommé que 400 kg, donc nous avons déjà gagné 1,1 tonne avant de décoller. Et donc, comme nous avions beaucoup d'avance, nous avons adopté un régime de vol plus lent, ce qui nous a permis encore d'économiser 600 kg en prévision. Donc, sur 40 tonnes de fuel prévu pour réaliser cette étape, on vient a priori d'économiser 1,8 tonne, ce qui fait presque 3,5% d'économie carburant.
100. Après 6 heures de vol, nous entamons notre descente sur l'aéroport Charles de Gaulle. Là aussi, les trajectoires de vol, comme le bon usage des inverseurs de poussée, à l'atterrissage sont primordiaux pour gagner du carburant et donc polluer moins. Une fois à notre point de stationnement, l'objectif de 2 tonnes de carburant en moins, soit 7,5 tonnes de CO2, est atteint. Éric Prévost.
Il n'y a pas d'aubaine, il y a juste donc des gens qui savent faire leur métier, les contrôleurs aériens, les dispatchers donc au centre de contrôle des opérations aériennes, et puis après, bien sûr, les équipages. On arrive généralement à économiser 2 à 3% ouais, sur nos étapes.
3% de consommation en moins, sans utiliser la moindre goutte de kérosène, c'est l'ambition de l'équipementier Safran qui développe l'e-taxiing. C'est un système qui va permettre de faire rouler les avions jusqu'à la piste de décollage grâce à des batteries électriques placées sous le train d'atterrissage.
L'intérêt du système e-taxiing, c'est notamment qu'on a un rapport gain-coût qui va être très intéressant. Et l'autre élément qui est très important, c'est qu'on peut appliquer ce système sur les avions qui sont déjà en flotte. Et donc ça permet de multiplier l'effet, sachant que sur des technologies plus radicales, comme des nouvelles formes de propulsion, ça ne pourrait être appliqué que sur des nouveaux avions, donc plus tard dans la flotte.
Stéphane Cueil, responsable environnement chez Safran. Quant à faire voler des avions de manière totalement électrique, des avions commerciaux, d'ici quelques années, eh bien ce n'est pas pour demain, car l'avenir proche, ce sont les avions hybrides, comme le concept d'Airbus qui est développé actuellement, l'IFAN X, qui sera commercialisé en 2030, Hubert Mantel, responsable environnement chez Airbus.
En mettant à bord à la fois de l'hybride, ça nous permet d'avoir comment se comporterait une production d'énergie à bord, comment se comporte un avion dont le moteur électrique va venir aider dès le début, en phase décollage, ou alors en fait en phase très adaptée d'atterrissage où on utilisera la puissance électrique plutôt que les moteurs. À un moment, on a besoin de puissance et on peut la moduler assez facilement.
Avec une croissance du trafic de 5% par an et un doublement de la flotte des avions d'ici 20 ans, il est donc urgent dans un premier temps à renouveler les avions des compagnies aériennes avec des avions plus propres qui consomment moins de carburant.
Hakim Kasmi, merci. Votre dossier sur les avions moins polluants à retrouver sur franceculture.fr. La disparition d'un grand nom de la radio, André Francis, est mort dans son sommeil cette nuit à l'âge de 93 ans. Pendant plus de 50 ans, André Francis aura été le monsieur jazz de Radio France sur France Inter, France Musique ou France Culture. Ses émissions s'appelaient Jazz sur scène ou Jazz vivant. Il avait pris sa retraite radiophonique en 1996. Le temps demain sera bien ensoleillé sur la majorité majeure partie du pays. Les grisailles matinales se dissiperont rapidement, sauf sur le nord-est où elles persisteront à la mi-journée. Le ciel restera nuageux autour du golfe du Lion. Température minimale de 0 à moins 4 degrés à l'intérieur des terres, 2 à 8 degrés vers le littoral. Les maximales sont en hausse, elles iront de 8 à 16 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.